d'être venus nombreux ce soir pour entendre messieurs Rousseau et Paulin. Nous allons bâtir donc cette réunion de la façon suivante. D'abord une présentation faite, je crois, par monsieur Rousseau. Ensuite, monsieur Paulin prendra la parole et donnera quelques éléments sur l'ouvrage dont il est question ce soir. Puis à nouveau monsieur Rousseau, et puis nous pourrons entamer le débat. Donc après cette présentation à quatre mains, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez. Donc je vous laisse la parole, monsieur.
Merci monsieur l'abbé, je pense qu'il est utile aussi, enfin vous pensez quand même qu'il faut mieux utiliser.
Il est branché, non c'est celui-là,
voilà. Bien. Écoutez, je vais être assez bref. Je vais me borner en quelques mots, si vous voulez, à vous donner une idée générale du contenu de ce livre, puisque vous ne l'avez pas lu encore, probablement. Et par conséquent, si vous voulez, annoncer les grands thèmes, je me bornerai à quelques éléments, enfin très 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 sommaires. Tout d'abord, la perspective dans laquelle nous nous sommes placés, c'est celle de la philosophie. Pas seulement pour des raisons professionnelles, mais par une intention délibérée. Ce qui veut dire, dans notre esprit, deux choses. D'une part, n'est-ce pas, nous considérons que la philosophie n'est jamais qu'une description de la réalité, qui se démarque des descriptions ordinaires de la réalité parce qu'elle est moins aveugle, ou veut être moins aveugle que l'homme ordinaire, n'est-ce pas, sur les choses dont elle traite. Là où le regard de l'homme ordinaire est un regard plein de passion, ou étourdi, ou attentif seulement à des points particuliers, le regard du philosophe essaie d'être un regard sans passion et un regard synthétique. Il essaie de voir les choses de plus loin, les mêmes choses que ce que n'importe qui voit, mais simplement de plus loin. Il essaie de prendre un certain recul par rapport à une réalité qu'il veut tout simplement décrire. Il ne s'agit pas ici de partir d'abstraction pour en extirper à toute force, n'est-ce pas, des réalités qui finiraient par être aussi abstraites que les abstractions dont on serait parti, mais de décrire, essayer de décrire les choses comme elles sont, ni plus ni moins. La perspective est donc parfaitement modeste, c'est celle du réalisme entendu dans son sens le plus commun. Je ne croyais pas si bien dire. Enfin, nous nous plaçons sans.
Réalité courante.
Tout simplement. Mais voilà. Avant que le terme ait l'usage technique, n'est-ce pas, que nous savons, il a un usage simple exactement celui-là. Alors, la deuxième petite observation que je crois qu'il faut faire concernant cette perspective, enfin philosophique dans laquelle nous nous plaçons, c'est qu'elle se démarque entièrement de la perspective sociologique. Aujourd'hui, les hommes qui parlent de la société en termes concrets sont des sociologues. Hélas, il se trouve que la sociologie monopolise la description de la réalité. Et c'est très ennuyeux parce que le sociologue, c'est un individu qui fait partie du monde qu'il décrit, justement, qui ne peut pas s'en arracher, et qui par conséquent donne une description de ce monde qui est gauchie par la perspective qui est la sienne, et qui est marquée précisément par les réalités qu'il décrit. Alors il se trouve, que les sociologues de la démocratie commencent par être démocrates, n'est-ce pas, aujourd'hui, que les sociologues du socialisme sont socialistes. Ils font partie, pieds et poings liés, pourrait-on dire, du monde qu'ils prétendent décrire. Ils en sont les produits, les victimes, pas les complices, comme vous voudrez, mais en tout cas, les émanations. Et par conséquent, leur description de la réalité a un coefficient idéologique marqué. C'est vrai des premiers sociologues, n'est-ce pas ? La sociologie a commencé avec la démocratie. Il n'y a pas de sociologue qui ne soit pas démocrate. Un sociologue non démocrate, c'est une contradiction dans les termes, il n'y en a pas. Alors, le philosophe essaie modestement de faire ce que le sociologue ne peut pas faire, par position, par situation, pris qu'il est dans le système, n'est-ce pas ? Le philosophe est celui qui essaie de s'en démarquer suffisamment pour le voir du dehors, pour essayer de le décrire en ce qu'il est. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de décrire les structures de la réalité démocratique, de décrire le monde démocratique du dehors, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? En le prenant comme une chose, une chose dont nous sommes les victimes, mais si vous voulez, qui ne nous concerne pas d'une certaine façon. Alors, cette espèce de regard détaché, détaché de la réalité, et qu'il essaie de l'apercevoir d'autant mieux, justement, qu'il n'en est pas victime, qu'il en est détaché, nous essayons de l'être et tels que les autres devraient aussi essayer de l'être. Alors, cette petite enquête, voyez-vous, pratiquée dans l'esprit que je vous indique, débouche sur une critique tout à fait détachée, dépassionnée au possible de la démocratie. Nous ne sommes pas dans le militantisme antidémocrate, dont d'aucune manière, ce sont des choses qui ne nous intéressent absolument pas, nous décrivons la situation. Et cette situation n'est pas drôle. Enfin, ça, c'est son affaire, c'est pas la nôtre. Eh bien, nous procédons, si vous voulez, à une critique qui nous semble objective et très détachée de la démocratie, se déroule en deux grands temps. Pas le sommaire du livre l'indique assez. Je résume en quelques mots. Il nous semble que les manières de penser, comme dirait Tocqueville, n'est-ce pas, la méthode de pensée des démocrates est caractérisée, n'est-ce pas, de façon très, très nette, par des déviations, et qui affectent, on pourrait dire, les trois grands concepts qui sont au centre du pensée démocratique, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité, pour reprendre la célèbre devise. La société démocratique est une société qui prend ces mots et ces choses-là, me semble-t-il, assez mal, d'une façon déviée, pas d'une façon torve, louche, tordue à la limite. Et nous essayons de montrer ce qu'est la liberté démocratique. Cette liberté n'est pas la vraie liberté que chacun admet, que les Grecs connaissaient, dont ils ont tiré l'isonomie, que les chrétiens connaissent, qui en ont tiré la doctrine de l'égalité des âmes qu'on peut prendre en bon sens, si les âmes en question sont des créatures de Dieu participant toutes à la même finitude. Alors, la liberté démocratique, c'est une liberté qui n'est plus cette liberté-là. C'est une liberté, l'égalité, disais-je, excusez-moi du lapsus, l'égalité, c'est une égalité égalitariste. C'est une égalité de rabotage, c'est une égalité de nivellement, c'est une égalité d'envie, de jalousie mutuelle, ne supportant plus qu'il y ait un homme au-dessus d'un autre homme, désirant l'écarissage. Et ça, ça n'est ni grec ni chrétien. La liberté, enfin on pourrait en dire autant à son sujet, n'est-ce pas, cette, la liberté des démocrates, ça n'est plus la liberté des anciens, comme on disait, n'est-ce pas, la liberté de participation à la gestion de la chose publique, ou la liberté chrétienne, la libertas christiana de saint Paul et de ses descendants. Non, la liberté des démocrates, c'est la liberté de l'anarchie, n'est-ce pas, c'est le droit revendiqué de plus en plus bruyamment de pouvoir faire n'importe quoi, pas de sa propre initiative, sans que personne puisse y redire quoi que ce soit, c'est le droit au n'importe quoi, promu en principe de vie. Et la liberté est faussée comme l'égalité l'était. Quant à la fraternité, qui pourrait être prise en bon sens, il y avait une fraternité chrétienne, il y avait une philanthropie, une fraternité grecque, d'une certaine manière, cette fraternité est tout le contraire, n'est-ce pas, dans démocratie d'un altruisme, c'est au contraire, n'est-ce pas, une attitude qui, en réalité, sous des apparences flatteuses de générosité, de caritatisme, renvoie à ce que nous considérons comme la haine de l'homme pour l'homme qui fait le fond du système. C'est une fraternité de pure hypocrisie, n'est-ce pas, dont les grincements qu'elle recouvre fort mal, n'est-ce pas, sont ceux de l'hostilité, de la haine de l'homme contre l'homme. Et, état de nature, comme on le verra tout à l'heure. Et puis alors, n'est-ce pas, cette critique des concepts, des grandes notions, si vous voulez, dont la démocratie se gargarise, n'est-ce pas, et c'est aussi une critique des élites, une critique des forces humaines, cette fois, qui dirigent le système, et que nous dénonçons dans leur dimension temporelle et spirituelle, car elles ont une dimension spirituelle. Il y a les politiciens, n'est-ce pas, qui se sont substitués aux politiques, le politique, au politicos, n'est-ce pas, devant lequel un Platon et un Aristote, n'est-ce pas, étaient des béats d'admiration lorsqu'ils en trouvaient un digne de ce nom, c'est devenu un politicien, c'est-à-dire un petit monsieur avide, n'est-ce pas, parfaitement trivial, préoccupé uniquement de maximiser ses intérêts et ceux de sa bande. Les grands hommes d'État démocratique ne sont jamais que des individus de cette espèce. Il y a les petits individus, il y a les grands, mais ils sont tous de la même farine, n'est-ce pas ? Absolument incapables d'un sens utile élémentaire de l'intérêt général, ce qui définissait le politique élémentairement pour les anciens, tokoinon, n'est-ce pas ? Eh bien, au spirituel, pour aller vite, les élites démocratiques, nous les connaissons, ce sont celles des scientifiques, ce sont celles des médiatiques, ce sont celles des journalistes, ce sont celles constituées par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'auto-légitiment en se recouvrant du manteau de Noé de l'opinion publique. ce sont tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'arrangent pour être d'accord avec la majorité ou avec ce qu'ils supposent devoir être la majorité, de façon à n'encourir de reproches de personne. Ce sont ceux, n'est-ce pas, qui cultivent l'opinion, hein, avec un art souvent consommé et sous des apparences de grands airs, c'est-à-dire de grande indifférence à son égard, donc, alors qu'ils en sont en réalité les esclaves. Et puis aussi, n'est-ce pas, et pour finir et pour faire bonne mesure, il se trouve que la démocratie, après avoir corrompu les élites temporelles et les élites intellectuelles, pourrait-on dire, pas qui se tenaient quelque peu parfois sous d'autres régimes, corrompt aussi les élites spirituelles. Inutile de trop insister ici, elle s'attaque à l'Église dont elle érode l'esprit. Lorsque l'Église s'aligne sur les catégories démocratiques, lorsque ces hommes eux-mêmes commencent à flirter, sans trop le dire, ouvertement d'abord, puis de plus en plus en le disant, avec les valeurs démocratiques, ils se temporalisent, n'est-ce pas? Et la théologie, n'est-ce pas, se matérialise. Elle s'aligne, et cette théologie qui s'aligne, c'est une théologie, n'est-ce pas, qui depuis le début de ce siècle ne cesse de descendre une pente qui la précipite jusqu'au laïcisme, n'est-ce pas, ou qui risque de vouloir dire cela. Cette matérialisation, cette dégradation de l'élite dans son troisième aspect proprement spirituel est peut-être le phénomène le pire auquel nous assistions aujourd'hui, et la dernière partie de notre livre est consacrée partiellement à la description de cette dégradation. Voilà, c'est en somme, si vous voulez, une petite vue très rapide de ce que nous avons voulu faire.
Je vous remercie, une très très bonne synthèse. Je vais passer tout de suite la parole à M. Paulin.
Bien, eh bien, ce que nous avons convenu de faire, c'est au fond de reprendre en les développant deux intuitions fondamentales de ce petit ouvrage, intuitions dont M. Rousseau vous a d'ailleurs déjà livré d'une certaine manière l'essentiel. Par conséquent, a dit le contenu fondamental de cette les intentions fondamentales de ce livre. De ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement développer un peu plus dans le détail une ou deux de ces intuitions. Si vous voulez, d'une certaine manière, si je résumais en un mot ce que nous avons voulu faire dans ce travail, nous avons voulu dénoncer l'imposture des idéaux et l'imposture des hommes. D'une certaine manière, ce que je vais faire, c'est essayer de développer un peu le thème de l'imposture des idéaux, et ensuite Claude Rousseau terminera en développant le thème de l'imposture des élites. Ce thème de l'imposture des idéaux, je vais essayer de vous le faire sentir d'un petit peu plus près, en descendant un petit peu plus dans le détail, en essayant de vous démontrer très rapidement, à grands traits, la thèse suivante, n'est-ce pas ? La société républicaine n'est pas une société. Nous ne vivons plus, alors ça c'est une chose dont nous sommes profondément convaincus et qui personnellement, je dois dire, va même jusqu'à me terrifier ou me désespérer, n'est-ce pas ? Mais nous ne vivons plus dans une société qui mérite ce nom. Nous revenons de manière de plus en plus claire, de plus en plus manifeste à la barbarie. Il subsiste des îlots de civilisation qui sont de plus en plus restreints, de plus en plus isolés, même coupés malheureusement les uns des autres. Et c'est de plus en plus clairement la barbarie qui triomphe. La civilisation, c'est comme les arbres, ça met des siècles à se construire, pousser. Il faut très peu de temps, en réalité, pour couper un arbre centenaire ou un arbre pluriséculaire, n'est-ce pas ? Ben, c'est pareil, d'une certaine manière, ce qui se passe de nos jours, on abat de plus en plus rapidement ce qui reste de l'arbre de la civilisation. C'est une œuvre qui a commencé il y a 2 ou 3 siècles. Nous avons l'occasion de dire, enfin, on peut même le faire remonter de manière relativement précise à la Renaissance. Et en tous les cas, les coups sont de plus en plus précis et de plus en plus mortels, de plus en plus efficaces, parce qu'il n'en reste pas grand-chose de la civilisation. Alors pourquoi est-ce que nous vivons dans un état de semi-barbarie, ou pourquoi est-ce que la barbarie est en train de triompher? Eh bien parce que, mais ça je vais revenir, si vous le permettez, sur le mot, sur le terme même de république tout à fait à la fin, pour vous expliquer pourquoi ce mot a été utilisé, pourquoi nous l'avons mis dans le titre. Sous la République, nous décelons d'abord la démocratie. Voilà, la République n'est qu'une forme de la démocratie, et c'est, au fond, la démocratie qui est la barbarie. Et, naturellement, je vous renvoie au livre pour un exposé détaillé de tous les aspects de la barbarie, mais je voudrais me borner à un petit raisonnement simple, abstrait, conceptuel. Il me semble qu'on peut le comprendre, vous pouvez saisir très rapidement par ce qu'il y a de barbare dans la démocratie, dès l'instant que vous comprenez, tout simplement, ce qu'est en réalité l'acte fondamental du système démocratique, l'acte fondateur de la démocratie, c'est-à-dire le contrat. Tout le monde sait, tout le monde répète depuis des éternités, c'est-à-dire, mettons, au moins 2 siècles, 3 siècles, n'est-ce pas, qu'il n'y a de société légitime que contractuelle. La seule société dans laquelle la liberté des hommes, la dignité des hommes, enfin, tout ce qu'on voudra, est respectée, est une société fondée sur un contrat social, et de cette manière, le texte de Jean-Jacques Rousseau est incontestablement un des plus importants de la pensée philosophique et politique, en particulier moderne, et d'une certaine manière, c'est un texte qui est fondateur de la société moderne. Bon, la société, la démocratie est un produit, la société légitime est un produit du contrat social. Bon. Eh bien, les philosophes d'aujourd'hui se vantent d'avoir découvert ça, n'est-ce pas ? La philosophie moderne se vante, se glorifie d'avoir établi cette vérité première, n'est-ce pas ? Il n'y a de société entre les hommes, à proprement parler, si on veut que la société en soit une réellement, il n'y a de société que contractuelle. Eh bien, c'est un, si vous voulez, il y a là un sophisme, j'allais dire grossier, non, qui n'est pas grossier, parce que justement, il ne se fait pas passer pour un sot, il sait se dissimuler comme sophisme, n'est-ce pas? Mais en réalité, vous avez dans la simple idée, c'est très amusant, c'est très simple à comprendre, enfin, on peut résumer cette idée de manière, en quelque forme, très simple, le simple fait que les sociétés modernes soient des sociétés fondées sur le contrat est à soi seul la preuve que ce ne sont pas des sociétés. Pourquoi ? Eh bien parce que dire que la société... Prenons deux exemples, il y a deux manières de le montrer. Dire que la société est contractuelle, c'est dire qu'elle est artificielle. Que l'homme n'a besoin d'un acte artificiel, n'est-ce pas, pour entrer en société, c'est ce que répètent les Locke, les Hobbes, les Rousseau, les Montesquieu, de manière un peu différente, etc., tous les modernes, n'est-ce pas. C'est dire que la société est artificielle, c'est donc dire que l'homme n'est pas par nature un être sociable. C'est dire que l'homme n'est pas naturellement sociable, qu'il n'y a pas de société naturelle entre les hommes, et par conséquent, si vous voulez, d'une certaine manière, que l'homme n'est pas... Enfin, c'est-à-dire que l'homme n'est pas sociable, n'est pas fait pour la société. Donc, d'une certaine manière, quand il vit en société, eh bien, il n'est pas lui-même, n'est-ce pas, qu'il faut, d'une certaine manière, par conséquent, le contraindre, il faut le faire entrer dans un moule, il faut l'entrer dans une forme qui lui permette de devenir social, n'est-ce pas. Mais c'est d'emblée affirmer, n'est-ce pas, que, au fond, toute société est mauvaise, enfin, que l'homme n'est pas content de vivre en société. Bon. Et alors, naturellement, puisqu'il n'est pas content de vivre en société, eh bien, effectivement, il va se comporter comme quelqu'un qui n'est pas content de vivre en société. Alors, montrons comment se développe, par conséquent, si l'homme, si la société est artificielle, si l'homme n'est pas content de vivre en société. Alors, quel est le fondement? Qu'est-ce qui peut rester comme fondement à la société? Sur quelle base établir une société dont en réalité l'homme ne veut pas? Eh bien, l'idée même du contrat, de la convention, le montre bien, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous que l'homme entre en société si ce n'est pour la simple et unique raison que cet homme non naturellement sociable, cet homme naturel qui est à la base de la société, il trouve un certain avantage, il trouve un intérêt, n'est-ce pas? L'idée que toute la philosophie moderne, que l'homme moderne est un homme mené par son intérêt seulement, n'est-ce pas? Nous allons y revenir en conclusion, justement, n'est pas une idée très populaire, et on s'efforce. Toute la philosophie, nous reparlons de Kant, s'efforce de montrer précisément l'homme est un être, enfin, l'homme même défini par les modernes est un être beaucoup plus noble. Mais en réalité, quand vous réfléchissez une seconde, n'est-ce pas, et quand vous étudiez les textes, et quand vous regardez ce qui a été dit, en réalité, on n'en sort pas. L'idée s'impose d'elle-même, on y revient toujours, n'est-ce pas? La seule raison que cet homme non naturellement sociable est entré en société, c'est simplement que la société naturelle a cessé de le satisfaire, que pour une raison quelconque, il n'est plus capable de vivre comme sa nature voudrait qu'il vécût, n'est-ce pas? Il faut bien que, il s'est passé et... La chose est extrêmement concrète. Si vous lisez le contrat social, si vous lisez les œuvres de Rousseau, si vous lisez l'essai sur l'origine de l'inégalité, si vous lisez... ce sont des accidents, littéralement, Rousseau le dit en toutes lettres, ce sont des accidents naturels qui ont contraint l'homme à vivre en société. Des accidents naturels, c'est des glaciations, c'est des explosions de volcans, n'est-ce pas? C'est le fait que les bananes ont cessé de tomber à terre ou de pousser sur les arbres, n'est-ce pas? Que les rivières se sont asséchées, enfin... Alors, la vie naturelle, la vie de l'homme, là, qui avait de l'eau fraîche, quelques fruits, des glands, c'était possible, il a fallu avoir des peaux de bête, il a fallu faire froid, il a fallu se loger, etc. C'est un hasard parfaitement contingent. Autrement dit, on est entré en société, comme le dit Rousseau, je vous cite le texte de Rousseau, on est entré en société pour son avantage. La société, dit Rousseau, c'est du contrat social, est un échange avantageux. Un échange où, comme le dit Rousseau, avec son cynisme habituel, qui est en même temps un grande logique, on abandonne, évidemment, on abandonne la possibilité de vivre n'importe comment, enfin de vivre comme on voulait, de vivre au petit bonheur la chance, au vivre selon son bon plaisir. On abandonne cette possibilité, mais inversement, on gagne quelque chose, n'est-ce pas? On gagne, une certaine garantie. On gagne une liberté garantie, reconnue par les autres. Quand on vit tout seul dans les bois, la moindre rencontre est périlleuse, parce qu'après tout, on ne sait pas si on ne croise pas le chemin de quelqu'un qui a aussi sa petite idée personnelle et qui se moque éperdument de vous. Alors, quand on entre en société, déjà, c'est garanti. Il y a des droits, n'est-ce pas, qui sont garantis. Il y a même une morale. Il y a même une morale, comme le dit dans cette formule merveilleuse Rousseau, il dit « accord admirable de l'intérêt et de la morale ». C'est un intérêt qui est à la base de la morale, c'est quand même commode. Il y a un droit de propriété, par exemple, l'homme cesse d'être, comme il le dit, n'est-ce pas, un être qui a un droit naturel à tout ce à quoi ses forces lui permettent de prétendre. C'est très joli, les modernes sont très contents. Ils ont posé que l'homme est un être libre, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur Rousseau, d'une liberté parfaitement anarchique, n'est-ce pas? C'était très joli quand il était tout seul, puis il entre en société, on a trouvé, grâce au contrat, une manière de modérer cette liberté sans la supprimer. Parce qu'au fond, vous entrez en société, vous demeurez libre, parce que c'est vous qui l'avez voulu. Personne n'est allé vous chercher par la peau du cou, vous y avez votre intérêt, vous consentez à obéir à ces lois, n'est-ce pas, qui sont utiles à tout le monde. Bon, parfait. Et nous sommes, par conséquent, dans un paradis terrestre. Enfin, ça y est, on a trouvé la clé du bonheur de tous les hommes et peut se passer, par conséquent, de toute aide, en particulier surnaturelle. L'humanité, comme l'Italie, on disait au XIXe siècle, Faradassé, l'humanité s'est faite toute seule, s'est sauvée elle-même, etc. Bon. Oui, la seule chose, c'est que je reviens à mon idée de contrat. Je reviens à l'idée que la société est une réalité contractuelle. La seule chose, mais c'est, qui est en toutes lettres, qui est naïvement exposée par l'idée même de contrat, c'est que quand l'individu entre en société, il n'y entre que parce qu'il y est contraint et forcé par la nature, en somme, enfin par les catastrophes naturelles. Mais il y entre et il entend bien y conserver quelque avantage. Autrement dit, dans l'idée de contrat, n'est-ce pas, il y a l'idée tout simplement que je contracte, je passe convention, n'est-ce pas, parce que ça m'arrange. Autrement dit, alors je consens naturellement à limiter ma liberté, n'est-ce pas, mais j'y consens parce que ça m'arrange. C'est pas que je n'ai pas un goût particulier pour la société, moi, vous savez, je n'ai pas du tout envie d'aller m'empoisonner la vie, de ne pas pouvoir faire exactement ce que je veux quand je le veux, sous prétexte que j'ai des voisins. Et alors, je ne peux pas faire autrement. Bon, ça m'est avantageux, c'est utile, les circonstances sont ainsi, telles que, ma foi, c'est le meilleur choix que j'ai à faire, comme dirait M. Giscard d'Estaing, c'est le bon choix. Mais je n'abdique pas une seconde de mes intentions profondes. Où pouvez-vous lire, dans la littérature philosophique moderne, où pouvez-vous lire que cet acte contractuel, que ces accords passés entre individus qui chacun cherchent leur avantage, modifient quoi que ce soit à la nature de la liberté qui est à l'origine du contrat? Ce que Rousseau, ce que Locke, ce que Rousseau vous disent, c'est les idées dépassent les hommes, n'est-ce pas, c'est la dynamique des idées plus forte que n'importe quelle volonté humaine. C'est amusant ce que vous disent ces hommes-là. Vous le retrouverez sous la plume de ce philosophe à la mode, ou qu'il a été, qui s'appelait Jean-Paul Sartre, qui disait une formule tout à fait rousseauiste, obésienne, ouais, les seules limites à la liberté, c'est la liberté qui se les donne. Bon, alors ça a paru une idée géniale, en fait, c'est tout à fait remarquable. Oui, la seule chose qu'on oublie de dire, c'est que, puisque précisément, les seules limites à la liberté, c'est elle-même qui se les donne, et que par conséquent, par définition, on ne voit pas pourquoi elle aurait un intérêt propre et spontané à se donner des limites, cette liberté. Elle ne se les donne que d'une certaine manière contrainte et forcée. Et alors, si vous comprenez ça, vous avez compris pourquoi nous naviguons dans la barbarie. Parce qu'en réalité, et là je pourrais retrouver facilement tous ces mots, comment ça se... J'y reviens tout le temps parce que c'est l'essence de la modernité, n'est-ce pas? Mais les mots de Rousseau, que je vous cite de mémoire, il dit que par exemple, cette formule, n'est-ce pas? L'existence, l'homme a une existence par nature absolue et indépendante. Sa nature ne cesse jamais de lui parler. Ce que cette indépendance naturelle lui susurre constamment, dit Rousseau, n'est-ce pas? Eh bien, l'individu l'écoute sans cesse, n'est-ce pas? Et il est toujours, au fond, à l'affût de son intérêt. Il n'accepte de limiter sa liberté que, au fond, tout simplement, parce que les autres en font théoriquement autant. Que parce que c'est au fond un simple échange réciproque, un simple avantage réciproque, n'est-ce pas, mais qui n'annihile en rien le caractère profondément intéressé, initial de l'opération. Autrement dit, la liberté, contrairement à ce que disent les modernes, la liberté n'est pas réellement limitée par l'entrée en société. L'homme demeure profondément à l'état de nature. Simplement, il est comme un lion dans une cage. Si vous collez un lion à une cage de solide barreau, si vous restez à l'intérieur de la cage, le lion ne peut pas vous mordre. Mais le lion reste un lion. Vous mettez des barreaux, mais le lion reste un lion. Et l'individu reste cela. Autrement dit, ce que fait la société moderne, ce qu'a fait la civilisation moderne, n'est-ce pas ? C'est en réalité d'avaliser, de légitimer la partie sombre de la nature humaine que la civilisation s'était toujours efforcée de combattre. Bah, c'est de libérer, c'est le cas de le dire d'ailleurs, et de libérer avec tous les honneurs dus aux vainqueurs, n'est-ce pas, de libérer les pulsions, les instincts, toute la partie sombre, n'est-ce pas, que depuis Platon et toute la philosophie, et naturellement la philosophie chrétienne en particulier, s'était efforcée de maintenir dans les bas-fonds où elle doit naturellement rester. Enfin, qui est son milieu naturel. Il s'agit, ce qu'on a libéré en l'homme sous ce nom glorieux de liberté, n'est-ce pas, c'est l'animal, c'est la bête, n'est-ce pas, c'est la bête éternelle, pas que toute la philosophie classique a toujours décrit et toujours dénoncé. Et cette bête n'attend que l'occasion de se manifester. Quand il n'y a pas un gendarme, eh bien on triche forcément. On peut pas dire même qu'on triche. On viole les règles, mais c'est naturel. C'est la nature qui le veut. C'est la nature qui vous y autorise. On ne peut jamais dire, à proprement parler, que vous soyez méchant. On ne peut pas dire que vous soyez contre nature. Vous obéissez à votre nature. Dès l'instant que Dieu est mort, tout est permis. N'est-ce pas ? Et ce ne sont pas ces règles dont vous avez convenu pour votre avantage qui constituent une limite morale, une limite, n'est-ce pas, qui pose, qui présente un caractère le moins du monde sacré. Ce que je veux dire, c'est une autre manière de le dire, je pourrais parler très longtemps, c'est que les lois démocratiques ne sont pas des lois au sens plein du terme, au sens ancien, au sens traditionnel du terme, parce que ces conventions sociales ne peuvent jamais rien avoir de sacré. Et qu'elles sont faites, si vous voulez, prenons notre formule, ces lois sont faites pour être violées. Elles sont littéralement faites pour être violées. Alors, ne vous étonnez pas ensuite que vous ayez le spectacle qui se développe sous nos yeux, parce que simplement les derniers vestiges de la civilisation chrétienne, de la civilisation traditionnelle disparaissent peu à peu, la civilisation recule, l'homme cesse, les individus cessent d'être éduqués. Les jeunes gens cessent d'être éduqués de plus en plus, redeviennent ces petits barbares que l'on voit courir dans les rues à la moindre occasion, n'est-ce pas ? Et ces vestiges s'effaçant progressivement, vous avez affaire alors à une société qui est anarchique de plus en plus clairement, tyrannique de plus en plus clairement, parce que la seule manière de faire rentrer dans le rang, c'est de taper dessus. On ne peut plus compter sur la conscience, on ne peut plus compter sur l'intellect, pas. On peut tout au plus compter sur le calcul, mais comme il n'y a pas autant de gendarmes que d'individus, le calcul même ne fonctionne pas très bien, c'est ce que je veux dire. Par contre, je n'ai plus que la peur, nous avons des sociétés anarchiques, des sociétés de tyrannie, des sociétés évidemment corrompues. Donc, la démocratie a toujours été corrompue depuis le départ, mais enfin là c'est particulièrement amusant parce que même les journaux, ça a le thème, n'est-ce pas, ne peut plus être caché. La réalité surgit tout d'un coup assez massivement, n'est-ce pas ? Et pourquoi corrompue ? Alors, le mot de corruption en l'occurrence, on pourrait même se payer le luxe d'un certain cynisme et de dire qu'il n'y a même plus de corruption en vrai, parce qu'il n'y a de corruption que s'il y a une loi morale, s'il y a une règle morale que l'on transgresse. Il n'y a même plus de corrompu, il y a des gens qui vivent à l'état de nature, comme disent les philosophes d'autrefois, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui vivent à l'état et qui se servent. Et qui se servent, et qui se servent sur le dos des autres, ce qui ne présente finalement, ce qui n'est jamais la loi de la jungle, la plus classique, n'est-ce pas ? Contre quoi, précisément, l'humanité s'était toujours dressée. Je reprendrai volontiers ce mot que personnellement j'utilise en permanence. Vous voyez que nous sommes à deux doigts des sociétés les plus purement démocratiques, je veux dire à deux doigts des sociétés totalitaires, pas, qui représentent l'idéal de la démocratie. Ce sont des sociétés de haine, des hommes les uns pour les autres. De haine parce que vous voyez, s'ils pouvaient vivre tout seuls, les lions ne se détestent pas, ils ont chacun leur territoire. Mais quand les passions des hommes les rassemblent, parce qu'ils veulent vivre mieux, avoir des grosses voitures, un individu tout seul, il ne peut pas construire une Cadillac. Il faut beaucoup d'hommes, il faut du métal, il faut de l'électricité. Bon, quand les passions des hommes les rassemblent, alors ils se haïssent, mais ils sont contraints de vivre ensemble. Ben ça, bon, c'est la haine. Et vous avez des sociétés de haine, des sociétés où la barbarie s'étale de manière plus en plus posée. Alors pourquoi est-ce que nous avons étudié ça, les illusions républicaines ? Ben parce qu'il nous a semblé que le vernis craquant de manière de plus en plus évidente, n'est-ce pas ? Il importait de donner à ce régime ou cette société qui n'en est plus une, justement, l'apparence d'en être une. Alors, n'est-ce pas ? On va parler de république. Alors, on va invoquer d'une manière d'ailleurs qui n'est pas sans, d'une certaine manière presque touchante, enfin qui évoque la nostalgie du bien commun. On va invoquer l'idée que il y a dans cette société effectivement quelque chose de commun. Les hommes ont quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, mais on va toujours l'invoquer. Monsieur Mitterrand n'aura plus que le mot de l'intérêt général à la bouche, n'est-ce pas, alors qu'il est le premier témoin et le premier acteur, n'est-ce pas, d'une société, encore une fois, qui ressemble plus à une société de brigands que à une société réelle, n'est-ce pas. Bon, ben, je n'ai que trop parlé, je pourrais continuer longtemps, j'aurais voulu vous dire un mot. Juste un mot, alors tiens, ce sera pour nous autant que pour l'assistance. Je me suis dit, mais j'y réfléchissais tout à l'heure, ça m'a traversé l'esprit, mais au fond, les rapports de Kant et de Rousseau sont éminemment symboliques. Tout se passe comme si le kantisme cherche à habiller ce que l'honnêteté intellectuelle de Rousseau ne révèle que trop des dehors de la morale, n'est-ce pas ? L'idée de l'autonomie, vous l'avez déjà chez Rousseau, l'idée kantienne de l'autonomie, elle est déjà chez Rousseau. Pas ? Alors, selon chez Rousseau, c'est assez brutal. Enfin, l'homme, quand je rentre en société, je veux rester aussi libre qu'auparavant. Ah, et par conséquent, je vais essayer de respecter ça, mais en réalité, je veux rester ce que je suis, n'est-ce pas ? C'est le problème du contrat social. Ben, Kant va chercher, il va reprendre le thème de l'autonomie, il faut que l'homme se mette, mais il va se dire, l'homme est capable de se poser à lui-même une loi qui soit en quelque manière plus que lui-même. N'est-ce pas ? C'est l'imposture du kantisme, c'est la volonté de définir une loi, n'est-ce pas, qui soit en quelque manière indépendante de la volonté des hommes, pas qui soit plus que la volonté de tous les hommes, tout en étant en réalité le produit de la liberté humaine. Pas. La liberté, l'équation kantienne raison égale liberté, pas. La liberté c'est la raison, pas. C'est le masque hypocrite. Dont il cherche à revêtir ce que, après tout, le cynisme plus honnête de Rousseau n'avait fait que trop éclater. Bon. Mais c'est une petite parenthèse, je ferme la parenthèse et je n'ai que trop parlé, je donne la parole à Claude Rousseau.
Bon, je reprends au vol ce que j'ai abordé tout à l'heure, avant de finir, pour essayer de montrer, enfin, que. En quoi consiste la dégradation des élites, oui, bon. Après la dégradation de l'homme en général, la dégradation de l'homme en particulier, c'est-à-dire des têtes de liste. Alors, parmi, n'est-ce pas, les attributs que l'homme nouveau se reconnaît, il y a cet attribut peu banal, n'est-ce pas, de capacité à créer, entre autres choses, en toute liberté, la vérité elle-même. Ces individus qui se veulent en effet autonomes, ni Dieu ni maître, qui ne veulent obéir qu'aux lois qui se sont prescrites, n'admettent logiquement, par le simple fait, pas en même temps qu'une vérité qui leur convient. Ils ne la considéreront comme telle, n'est-ce pas, que si ils en sont d'abord les auteurs. Ça va jusque-là. Et ça va jusque-là très tôt, si je puis dire. Dès le XVIIe siècle, n'est-ce pas, vous voyez des gens qui commencent à dire, Hobbes, pour ne pas le nommer, c'est quand même remarquable, hein, quand on pense que nous sommes en 1650, il y a des gens qui commencent, par dire, n'est-ce pas, qui commence à dire que la vérité est chose humaine, c'est-à-dire, par exemple, qu'il appartiendra à l'État monarchique, enfin, à ses universités, pas de réputer, dans le cadre de la République, les opinions qui devront être tenues pour vraies et celles qui devront être tenues pour fausses. Vous pourrez, par-devers vous, en penser ce que vous voulez, mais vous serez tenu de professer des vérités qui seront des vérités publiques, sous peine de mort, dit-il. Ce n'est pas féroce, c'est logique, n'est-ce pas ? Alors, apparaît l'idée, si vous voulez, que l'État populaire, enfin, c'est un État pré-démocratique, mais c'est quand même un État du peuple, c'est déjà un État du peuple, l État de la volonté commune, il ne dit pas de la volonté générale, mais ça va venir, c'est un État qui crée la vérité elle-même. Le droit et le tort, le bon et le laid, le vrai et le faux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que l'homo democraticus, en quelque manière, n'est-ce pas, perçoit la vérité comme chose sociale. Qu'est-ce que c'est la vérité pour lui ? Ça n'est pas l'adéquatio rei et intellectus de nos grands-papas. Non, ce qui fait la vérité d'une proposition, ce n'est pas la conformité, comme un vain peuple pourrait le penser, de cette proposition avec la nature des choses, pas du tout. Ce qui fait la vérité d'une proposition, c'est la capacité qu'a cette proposition de faire participer à elle un nombre plus important d'individus. C'est sa puissance, si vous voulez, la puissance de conviction qu'elle entraîne lorsque cette capacité de convaincre est devenue significative parce que les gens convaincus deviennent extrêmement nombreux, ou à la limite sans l'unanimité, cette proposition peut être dite vraie. Autrement dit, Marx, vous savez, dans c'est la deuxième thèse sur Feuerbach, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, lorsque Marx dit que la vérité, aujourd'hui, doit être considérée non plus comme une question théorique, mais une question pratique. Vous vous souvenez de l'immortelle formule. C'est l'homme qui doit réaliser la vérité de sa pensée. La vérité aujourd'hui, du temps des philosophes, c'est différent. Même la vérité aujourd'hui, pour les hommes responsables qui voient les choses en face, c'est une... Et de l'ordre non plus de la théorie, mais de la pratique. Mais c'est ça ce qu'il dit. C'est du Hobbes. La vérité, si vous voulez, est chose sociale, n'est-ce pas ? Elle consiste simplement dans la conviction qu'elle est la vérité partagée par un nombre suffisant d'individus. C'est tout. En dehors de toute objectivité. Ça suffit. Alors, si ça c'est l'essence de la démocratie au plan intellectuel, vous comprendrez immédiatement quelle forme, quelle tournure vont prendre ces élites. Je ne veux pas dire que nous réduisions la décrépitude des élites démocratiques à la seule conséquence de la modification en démocratie du statut de la vérité. Bien, il y a d'autres éléments à faire intervenir. Mais enfin, vous avez là une idée extrêmement simple, je crois très profonde, n'est-ce pas, qu'on essaie de mettre en œuvre. À partir du moment où la vérité est devenue chose sociale, n'est-ce pas, il est clair que les élites vont se dégrader. Parce qu'elles vont se définir maintenant, n'est-ce pas, par rapport à cette vérité, qui n'implique plus du tout, n'est-ce pas, que l'esprit se transcende vers la chose qui serait sa loi, mais, n'est-ce pas, qui exige pour être ce qu'elle est, simplement de convaincre de son bien fondé un nombre suffisant d'individus. Alors, les élites, n'est-ce pas, qui se rapportent, qui se réfèrent à une vérité de ce type, sont forcément des élites qui vont se dégrader. Tenez, regardez ce qui constitue aujourd'hui l'élite, ben, dans nos sociétés. Bon, vous avez l'élite temporelle, qui est une élite d'ingénieurs et de politiciens, enfin, ou plus exactement de commerçants, doublés d'ingénieurs qui leur facilitent les choses, et puis de politiciens qui couronnent tout ça, qui mettent en forme, qui juridisent, n'est-ce pas, les intérêts des deux premiers. Bon, les élites temporelles. Bon, il est clair, n'est-ce pas, qu'elles se réclament toutes, n'est-ce pas, de l'adhésion populaire aux formules d'existence dont elles se font les championnes. Elle se justifie par l'idée que leur valeur, ce n'est jamais que les valeurs reconnues par le plus grand nombre au service desquelles elles se trouvent. Le politicien, n'est-ce pas, a pour idée, ou plutôt pour obsession unique, d'être toujours du côté de l'opinion, pour dire les choses simplement, n'est-ce pas, qui est la norme, qui est sa règle. N'est-ce pas. Il n'est pas question pour lui de s'en démarquer. Il faut, n'est-ce pas, au moins qu'il convainque qu'il est de son côté, c'est évident, n'est-ce pas ? C'est la condition même de sa survie. Les politiciens et tout ce qu'ils drainent ou tous ceux qu'il cautionne ou légitime, n'est-ce pas, sont des gens, n'est-ce pas, qui vivent littéralement de l'opinion, n'est-ce pas, et qui sentent le danger mortel qu'il y aurait pour eux, n'est-ce pas, à s'en détacher, ce qu'ils ne font jamais. Hein. Par conséquent, nous avons affaire à un monde d'esclaves, au sens stoïcien du terme, ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves, non plus de Néron, mais de l'opinion publique qui s'est substituée à Néron et qui, d'une certaine façon, pire que Néron, parce que Néron, c'était un homme, n'est-ce pas ? Il avait beaucoup de défauts, mais il devait bien avoir quelques petites qualités quand même, qui pouvaient justifier un certain attachement que certains esclaves avaient pour lui. Enfin, mais l'opinion, n'est-ce pas ? L'opinion, c'est le pire des maîtres, parce qu'elle est vraiment indéfendable, n'est-ce pas ? Être esclave de l'opinion, c'est subir le pire des esclavages. Les stoïciens l'avaient parfaitement bien compris, que c'était le pire des esclavages. Quand votre maîtresse est devenue invisible, hein, totalement invisible, et qu'elle vous tient jusqu'à la moelle, alors là, vous êtes l'esclave parfait. Mais regardez, à côté des politiciens, pas, de ce monde immense, pas, qui nous parasite, hein, et nous tue, mais qu'est-ce que vous avez en démocratie, comme autre représentant statistiquement significatif de l'élite ? Vous avez les savants, ou plutôt les scientifiques. Savants, c'est un bien grand mot, hein, un trop beau mot pour désigner toute cette nouvelle espèce d'individus qui s'intitulent eux-mêmes les scientifiques, n'est-ce pas ? Il y a des relents de démocratisme extraordinaires dans cette expression. Qu'est-ce que c'est qu'un scientifique ? Pourquoi les scientifiques sont-ils au pinacle ? Pourquoi y a-t-il des CNRS qui se multiplient comme des champignons l'automne dans tous les pays occidentaux ? Pourquoi y a-t-il des scientifiques plein les rues ? Pourquoi font-ils la pluie et le beau temps partout ? Mais parce que, n'est-ce pas, le scientifique, ou sa science, entre guillemets, n'est-ce pas, a quelque chose d'intime à voir avec l'opinion. Les scientifiques, ils n'aiment pas la science, dans le sens traditionnel du terme. Ils aiment, n'est-ce pas, des manifestations laborantines dont l'essence est d'être dictée par l'opinion, d'être servile à l'égard de l'opinion, et de s'expliquer de part en part par les incitations qui proviennent de l'opinion, et qui les amènent, n'est-ce pas, à pousser dans telle ou telle direction. N'est-ce pas ? Les scientifiques sont des individus qui, comme les chiens, selon les affiches de M. Chirac, font là où on leur dit de faire, n'est-ce pas ? Ils suivent des programmes qui leur sont dictés par des politiques, c'est-à-dire par des hommes d'opinion, qui les lancent comme des chiens sur une piste. Vous allez explorer les mutations génétiques parce que le populo actuel, il aime ça, ça le fait saliver. Vous allez... 5000 vont travailler aussitôt sur les problèmes. On va réveiller la planète Mars, il y a des métaux, ça pourrait bien nous être utile. 5000 autres vont s'y mettre, n'est-ce pas ? Avec une servilité sans exemple, n'est-ce pas ? Une servilité. La science n'a pas de fin. La science n'a aucune fin qui lui soit propre. Elle est faite pour en recevoir. Elle les reçoit d'ailleurs. Et d'où les reçoit-elle ? Sinon de l'opinion, c'est-à-dire de cette pensée socialement impérialiste, n'est-ce pas ? Que j'évoquais tout à l'heure, et qui la mène littéralement où elle veut, où il faut qu'elle aille. Alors, les scientifiques sont des esclaves, sont des esclaves de l'opinion. Ce sont des laborantins, des techniques, n'est-ce pas, au service des vols de la volonté générale, et des différents stades qu'elle peut connaître. La science est capable de faire absolument n'importe quoi, elle fera ce que l'opinion voudra qu'elle fasse. Dans un sens quelconque, vous aurez des millions d'individus qui aussitôt appliqueront les programmes. C'est pas étonnant que les savants, ou plutôt les scientifiques, n'est-ce pas, soient l'honneur de nos démocraties. Hein, elle reconnaît en eux ces véritables enfants. Mais cette science, n'est-ce pas, est évidemment totalement ignorante de l'indépendance intellectuelle. Il n'y a rien de moins indépendant qu'un scientifique moderne. Hein. Ils sont serviles comme les politiciens de la même nature qu'eux, c'est évident. Alors, si nous continuons notre petit tableau, n'est-ce pas, ben à côté de ces deux-là, vous en aurez de nouvelles espèces, ça sera les journalistes, ça sera les médiatiques, hein, ça sera les hommes les hommes qui se sont substitués à ceux qui jadis s'intéressaient aux choses de l'esprit, si j'en crois la définition persistante de l'intellectuel que donne le Larousse, hein, bien périmé le pauvre. À des hommes qui s'intéressent aux choses de l'esprit. Vous en connaissez beaucoup en démocratie ? Non ? En revanche, il y a des journalistes, il y a des médiatiques, il y a des cinéastes, il y a des éditorialistes, n'est-ce pas ? Il y a des sociologues, il y a des futurologues, il y a des prévisionnistes. Ça grouille, n'est-ce pas ? Tous ont pour dénominateur commun l'opinion encore, la volonté générale que la vérité soit là et pas ailleurs. Tous ont pour dénominateur commun un culte. Habilement rendu, parfois bêtement rendu, souvent habilement rendu à la grande déesse dont ils vivent, n'est-ce pas ? Dont ils vivent, n'est-ce pas ? Comme des souteneurs vivent de leurs filles, littéralement. Autrement dit, n'est-ce pas ? il flatte l'opinion, il s'y intéresse, il la plotte, n'est-ce pas ? Il la combat haute, tout doucement, n'est pas dans les détails, pour donner l'impression qu'ils n'en sont pas tout à fait les esclaves. Enfin, il joue avec elle, n'est-ce pas ? Et il s'auto-légitime en permanence par la révérence que chacun voit qu'au fond, ils ont pour la grande déesse. C'est le contraire de l'intellectualité indépendante. C'est le contraire de l'intellectualité philosophique, dans ce qu'elle a d'élémentaire, de l'intellectualité qu'a fait les Aristote, les saint Thomas, les Platon, les Épicure, les Épictète, enfin tous les philosophes. Et dans une certaine mesure encore, même les Descartes et les Malebranche, si on va par là, n'est-ce pas ? Ouais, on pourrait même, en étant gentil, mais pousser le bouchon un peu plus loin. Enfin, ça c'est une question de goût. Enfin, non, c'est une question d'histoire des idées. Il y a des savants qui savent ça très bien, qui savent comment on dose le thé, si vous voulez. Mais peu importe, l'essentiel c'est de voir l'idée. Eh bien, il n'y a plus d'intellectualité indépendante parce qu'il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, un culte unanimement rendu. À la volonté générale, sous la forme la plus vicieuse qu'elle puisse peut-être comporter, ben, en secrétant une opinion, n'est-ce pas, qui devient effectivement la reine du monde. Et pour terminer, et pour en finir, et pour terminer, vous avez l'Église. Vous avez l'Église qui s'aligne, comme je le suggérais tout à l'heure, et qui, n'est-ce pas, maintenant, à côté du premier dieu, a fait sa place à un deuxième dieu. Et la grande difficulté pour elle, c'est de montrer que ces deux dieux ne sont pas contradictoires, avec toutes les acrobaties incroyables auxquelles ils vont se livrer, pour justifier à la fois Dieu et l'opinion. Le dieu, n'est-ce pas, de toute une église, c'est le dieu du « oui, mais ». Oui, Dieu, Dieu, Dieu. Oui, le Dieu de la Bible. Oui, oui. À condition tout de même qu'il s'arrange pour formuler ses exigences d'une façon qui ne soit pas absolument hostile à celle de l'opinion. Enfin, oui, Dieu, mais, enfin, qu'il s'arrange, enfin, tout de même à parler dans des termes que nous puissions avouer, n'est-ce pas, qui ne nous mettent pas en porte-à-faux par rapport à ce que les gens d'aujourd'hui veulent, désirent et croient. Enfin, alors qu'il se fasse suffisamment compréhensif pour adopter un langage qui soit à peu près celui que les gens veulent entendre. Alors cette espèce d'incroyable acrobatie qui consiste à réconcilier le dieu de la tradition et l'opinion, la déesse opinion, n'est-ce pas, une certaine église la pratique depuis maintenant 90 ans, ou que dis-je, un bon siècle, n'est-ce pas, dans des conditions d'artificialité de plus en plus évidentes. Car, n'est-ce pas, s'il n'y a pas à transiger, c'est bien sur ce plan-là. Eh bien, le temps de la compromission est évidemment venu là aussi. Et déjà, maintenant, on peut dire que dans l'opinion, n'est-ce pas, dans l'Église, c'est l'opinion qui mène le monde, jusqu'à modeler Dieu sur elle. Qu'est-ce que c'est que l'évolution de la théologie sociale ? Qu'est-ce que c'est que le concile dernier ? Sinon, n'est-ce pas, la résultante logique d'un désir de faire en sorte que Dieu et l'opinion ne se combattent plus. Comme si leur essence, précisément, n'était pas de se combattre, de se combattre toujours, n'est-ce pas ? Eh oui. Alors là, si je peux dire, les carottes sont cuites, n'est-ce pas, ça boucle, n'est-ce pas, nous en arrivons à la fin de cette histoire, n'est-ce pas. Bref, le principe est toujours le même, n'est-ce pas, l'homme devenu Dieu, n'est-ce pas, dans l'opinion qui se fait de lui-même, dans la poursuite de ses chers intérêts, désormais sacrés, n'est-ce pas, engendre des monstres, et notamment des élites qui n'en sont plus. Mais qu'il ne suffit pas, n'est-ce pas, qu'elles se dégradent, hélas, pour se supprimer par cette simple opération. Elles sont toujours là, n'est-ce pas. C'est Platon qui disait que l'âme était une réalité bien gênante, contrairement au corps que ces maladies finissent par tuer, l'âme ne meurt pas de ses propres maladies, ce qui fait son originalité redoutable. Le corps, quand il est malade, quand il l'est trop, finit par disparaître. La maladie ne pardonne pas. L'âme, Platon se grattait la tête, ressemble beaucoup au corps, elle est une totalité comme lui, mais elle a beau être vicieuse comme une chaîne, elle vit toujours. N'est-ce pas ? Ça ne suffit pas à la tuer. Eh bien, nous en sommes là, n'est-ce pas ? Nous en sommes là. La destruction intellectuelle des élites ne suffit pas à les supprimer. Et nous continuons à être le victime de ces masques honteux, n'est-ce pas, qui parcourent nos avenues. Et qui, n'est-ce pas, ne crèvent pas en dépit de leur boursouflure et de leur imposture. Par conséquent, la situation dans cette mesure même n'est pas très rassurante. Voilà.
Merci infiniment pour cette présentation. Si d'aventure quelques-uns de nos auditeurs craignaient ce soir d'avoir affaire à des philosophes au discours
aseptisés, je pense qu'ils sont définitivement rassurés ou parfaitement inquiets. Je reprends le propos de Claude Paulin. Vous nous parliez de cette décomposition, vous nous parliez de cette société qui n'en est pas une, puisque c'est une société démocratique. Vous disiez qu'elle a pour but, au fond, de faire ressurgir la partie sombre, de faire revenir à la surface des instincts qui doivent, par l'éducation, rester là où ils sont et où ils ne doivent jamais sortir. Il y a une phrase que je cite souvent ici, qui me semble être un petit peu l'écho de ce que vous disiez, c'est une phrase de Baudelaire. Baudelaire disait la civilisation, ce n'est pas le télégraphe, ce n'est pas la vapeur, ce n'est pas l'électricité, c'est tout simplement réduire les effets du péché originel. Je crois que c'est une bonne façon. Et alors, la barbarie, c'est au contraire développer et permettre à ces péchés de croître et embellir. Alors, j'ai envie de vous poser une première question qui permettra ensuite aux auditeurs qui piavent d'impatience de vous en poser. Mais ça, c'est le privilège du recteur, c'est lui qui pose la première question. Vous dites au début de l'ouvrage, tout le monde constate cette décomposition, tout le monde voit bien effectivement que nous sommes dans une société qui favorise une anti-éducation. Vous parlez d'hédonisme, de subjectivisme, vous dites qu'il s'agit d'ennoblir l'immanent, de sacraliser le plaisir. Mais vous dites aussi que nous sommes dans une période où l'on ne peut même plus penser l'idée de déclin. On n'a même plus le droit de parler de déclin. Ce que vous venez de dire est extrêmement courageux, parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas la possibilité de dire, et vous dites que c'est impossible parce qu'au fond, on ne sait plus ce que c'est que la nature, l'essence de l'homme. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu pourquoi est-ce qu'il est interdit aujourd'hui à la radio et à la télévision de dire que nous sommes dans une situation de décadence, tout simplement?
Qui voulez-vous?
Bien, je vais te faire rompre pour la droite, si vous permettez.
Il y a une, je dirais, enfin, en réfléchissant, tout en parlant, n'est-ce pas, qu'il y a une raison de droit et une raison de fait, n'est-ce pas. En droit, il n'est pas possible, vous ne pouvez parler, n'est-ce pas, d'une évolution dans un sens ou dans un autre qu'à partir du moment où vous avez un point de repère. Enfin, n'est-ce pas, vous pouvez savoir si vous vous déplacez, que vous avez une boussole et un système de coordonnées. En l'occurrence, pour parler de déclin, il faut évidemment pouvoir, pour parler de pathologie, il faut savoir ce que c'est que l'homme normal. Or, précisément, tout ce que vient de dire Claude Rousseau à l'instant pourrait servir à étayer cette idée simple, n'est-ce pas? Alors, précisément, comment voulez-vous, entre autres pour m'appuyer sur ce qu'il vient de dire simplement, comment voulez-vous qu'il puisse exister une normalité, un homme normal, dès lors que c'est la volonté générale, que c'est l'opinion qui fait la vérité? Comment voulez-vous, ou alors en termes légèrement différents et plus classiques peut-être si vous voulez, comment voulez-vous qu'il y ait une essence de l'homme quand c'est la volonté générale ou l'opinion qui dit ce qu'est l'homme doit être? Bon, alors comment, quand c'est le consensus qui fait l'homme admirable, qui fait le modèle, comment voulez-vous qu'il y ait décadence? Bon, alors ça c'est là, il y a là un problème purement logique. Si vous voulez. Et c'est ce que les philosophes, dans un langage un peu plus technique, me semble-t-il, exprimaient justement quand ils parlaient d'essence, n'est-ce pas? Et c'était l'une des idées bases de la philosophie qu'on peut nommer essentialiste, si vous voulez, qui a été la philosophie gréco-chrétienne, n'est-ce pas? Bon, puis là, il y a une raison de fait. C'est pas par de la raison de droit qui est peut-être plus immédiatement efficace, mais enfin qui n'est jamais que la forme concrète de l'idée abstraite, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, dans la société moderne, parler de décadence, parce que, par définition, n'est-ce pas, la société moderne est une société de progrès. Ça fait partie, n'est-ce pas, le progrès, d'ailleurs, intègre l'idée d'absence de référence. On a un progrès, on ne sait pas par rapport à quoi, d'ailleurs, mais le dogme est là, n'est-ce pas, il est fondateur, il est essentiel. Vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, nier que la société moderne soit en progrès, pas, sans la nier elle-même, enfin, sans introduire l'idée qu'il y a des références, qu'il y a une norme ailleurs, n'est-ce pas ? Tout ce que nous disons là, n'est-ce pas, ne peut pas passer par définition, d'une certaine manière, ce n'est pas un hasard, c'est un symbole philosophique. Si nous sommes ici, n'est-ce pas, je veux dire, dans un cercle étroit, dans un cercle étouffé, parce que par définition, ce genre d'idée ne peut pas passer sur les ondes. Jamais Claude Rousseau ou moi ne serions invités dans une des grandes manifestations médiatiques, parce que précisément, non seulement tout ce que nous disons est évidemment éminemment destructeur de tout ce qu'ils veulent être, mais on est même dangereux d'une certaine manière, parce qu'on pourrait susciter des questions, n'est-ce pas, par rapport à l'essence du phénomène médiatique. Pas. Tout ce, notre simple existence est un démenti ou une insulte, comme on voudra, à l'existence des hommes médiatiques, justement. Entre nous, il n'y a pas de milieu, enfin, c'est eux ou nous. Il est bien évident que dans l'immédiat, c'est eux.
Merci pour cette conception, c'est pugnace. Je vais demander à Béatrice de Gossin de vous poser la seconde question.
Une remarque d'abord, c'est que vous le disiez avant, comme vous y a parlé, dans votre ouvrage, Les illusions de l'Occident, la quête de susciter les esprits qui la contestent, on ne peut que se réjouir de la nôtre. Non, la question que je voulais poser est la suivante. Comment dire ? Est-ce que pensez-vous véritablement que l'appétit de jouissance, l'hédonisme, le consumérisme, le retour en force de ces instincts animaux et bestiaux constituent la vraie raison, si vous voulez, de cette tyrannie que vous dévoyez si bien, que nous subissons tous, et qui fait de nous des esclaves. Est-ce que cet appétit de jouissance suffit à rendre raison de la situation actuelle ?
Je dirais on pourrait dire en termes plus scolastiques, mais je crois que ça ne trahirait pas votre pensée. La question est de savoir à quelle concupiscence il faut donner la prime, n'est-ce pas, dans l'ordre de la capacité destructrice. Vous voulez, c'était pas une idée qui était exprimée telle quelle dans le livre, mais la première concupiscence, la très grande, celle de l'orgueil, n'est-ce pas, la concupiscence la pire, la concupiscence majeure. Oui. Elle a, je dirais, pour avantage de ne pouvoir être le fait, finalement, que d'un très petit nombre d'individus. Beaucoup, naturellement, sont orgueilleux, mais ce sont de petits orgueilleux qui ne savent pas seulement ce qu'est l'orgueil. Les grands orgueilleux sont rares. Une grande capacité d'orgueil, donc de satanisme, ne peut être le fait que d'individus très minoritaires. N'est pas un grand orgueilleux qui veut. Et par conséquent, le potentiel de destruction de l'orgueil est un potentiel limité par le caractère limité des suppôts que cet orgueil peut concerner. Je dirais. Les grands ambitieux, si vous voulez, ceux qui lancent vraiment des flèches aux étoiles, n'est-ce pas ?
Les hérésiarques.
Voilà, c'est ça. On peut le prendre dans des domaines bien différents. Exactement. Ne sont pas légions, ils sont minoritaires. Prenez symétriquement la troisième concupiscence, la concupiscence de la chair, comme dit notre bonne scolastique. On pourrait dire qu'elle est plus limitée aussi dans ses effets destructeurs qu'on ne le croit. Il y a une symétrie subtile là aussi. Mais n'importe qui ne peut pas se payer ses plaisirs, enfin évidemment aux effets socialement fâcheux, parce qu'il faut avoir les reins solides pour ça. Et l'humanité dans son ensemble a une constitution assez médiocre. Elle n'aime pas trop se gâter l'estomac. Outre que le potentiel de destruction de cette concupiscence, qui est extrêmement profond et puissant, est quand même sectoriel. Hein. Alors, vous avez la deuxième, et celle-là est beaucoup plus ennuyeuse, socialement, je crois, parce que le propre, n'est-ce pas, de l'hédonisme, c'est-à-dire de l'amour des biens matériels, qu'évoquait tout à l'heure Claude Poulet, dont le livre parle, enfin, essentiellement, le propre de l'hédonisme, c'est qu'il peut être vraiment le fait de tout un chacun, et relayé par l'argent que n'importe qui peut posséder, il acquiert alors une puissance de dévastation irrésistible, car tout le monde est assez bon pour en acheter un autre avec un billet de 1000, vous comprenez ? De même que tout le monde est assez bon pour désirer, quand il a une visa, passer à la Golf, puis à la Mercedes. Tout le monde est assez bon pour cela. Par conséquent, vous êtes en présence d'une concupiscence dans le propre et qu'elle peut se développer extensivement d'une manière indéfinie. Alors, si sa violence subversive est peut-être intensivement moins forte que celle des deux autres, chacune dans leur ordre, au total, tout bien pondéré, sa puissance dévastatrice est supérieure. Si l'on examine les grands nombres, n'est-ce pas, l'histoire universelle, enfin le politique, il me semble que sa capacité destructive est supérieure. D'où le sort particulier, quand même, que les classiques font à cette concupiscence, c'est-à-dire à l'hédonisme, dans lequel ils voient l'ennemi public numéro un. Saint Thomas et peut-être même Platon et Aristote qui ont déjà des vues là-dessus. Voilà, si vous voulez, la manière dont je vous répondrai.
Et là, c'est Dieu ou maman.
C'est Dieu ou maman. Voilà, et ben voilà, c'est Dieu ou maman. Et peut-être est-ce l'alternative, en effet, la plus profonde, n'est-ce pas, en termes politiques et sociaux, tout au moins. Mm-hmm. Oui, c'est ça notre idée. Enfin, je crois que c'est notre idée. Là,
qui a attaché à cette hédonisme, si vous voulez, par exemple, qui exacerbe, je crois, encore les rapports, cette concupiscence me paraît se renforcer, justement, c'est pas simplement sur le plan individuel, sur le plan social, se démultiplier par différents facteurs, dont précisément l'aspect manifestement mercantile dans nos sociétés.
Alors dans votre livre, il y a quelque chose qui revient très très souvent, c'est cette dénonciation du primat de l'économisme. Et alors je demandais aux étudiants qui étudient votre livre ici quelques questions, et l'un d'entre eux dit, mais l'économie c'est bien nécessaire, il faut bien vivre, primum vivere, digne des philosophari, c'est ce que vous faites, mais comment est-ce qu'on peut dénoncer à ce point l'économie, ça n'est pas l'économie, c'est l'économisme. Qu'est-ce que vous entendez par économisme? Qu'est-ce que c'est que ce primat? Vous parlez même de politique économique, et cette expression-là, déjà, vous fait peur. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bon, j'ai une réponse très simple, n'est-ce pas? Ce qu'il faut... Enfin, je sais pas, ça me traverse l'esprit maintenant. Je dirais que l'économisme... C'est une attitude spirituelle dévoyée, c'est une attitude mentale, c'est une attitude intérieure, n'est-ce pas ? Par opposition à l'économie, d'une certaine manière, qui peut être conçue de manière plus raisonnable. L'économisme, c'est une démultiplication de l'économie par une faute morale, par une faute spirituelle. N'est-ce pas ? Maintenant, si vous voulez, deuxième expression, oui, ça, cette dénonciation de l'économisme peut choquer, mais je crois que si elle choque, c'est surtout parce que les modernes, la philosophie moderne et toute l'intelligentsia moderne, précisément, a surtout à cœur qu'on ne puisse pas opposer à l'économie telle qu'il la conçoit une économie plus naturelle. Il s'agit essentiellement de montrer qu'il y a un long processus qui se développe depuis la barbarie originaire, l'homme des cavernes, n'est-ce pas, et dont le XXe siècle est simplement l'aboutissement glorieux. N'est-ce pas, ce n'est pas vrai. Il y a une coupure en philosophie. Elle existe clairement en économie aussi, n'est-ce pas ? Il y a deux économies. Il y a une conception peu connue, étouffée, n'est-ce pas ? Et que l'on présente usuellement comme une forme primitive de l'économie développée qui serait l'économie moderne. Ce n'est pas vrai. ce n'est pas une forme primitive, c'est une autre économie. Enfin, il y a une économie qu'on pourrait appeler, pour simplifier, mais ça c'est un vaste sujet, une économie naturelle. Et puis vous avez l'économie cancéreuse, n'est-ce pas, l'économie moderne, qui est fondée, au fond, qui reflète une toute autre philosophie. Alors, nous, quand nous dénonçons l'économisme, il faut voir les choses avec précision. Effectivement, nous ne dénonçons pas toute l'économie. Il ne s'agit pas de dire quelqu'un. Oh, c'est d'ailleurs le. C'était. Comment ça s'appelle? C'était l'abbé de Nantes. On était pris à nous autrefois, de manière extrêmement violente, n'est-ce pas? Dans des cahiers, je me souviens, qu'il nous avait accusé de vouloir, comme disait Voltaire à propos de Rousseau, faire vivre l'humanité à quatre pattes, n'est-ce pas, et la faire vivre de glands et d'eau fraîche. Enfin, ce que naturellement, nous n'étions pas capables de faire pour notre propre compte. C'est doublement grotesque. C'est pas ça du tout. Il faut reconnaître la part importante, n'est-ce pas, que de jouer, le développement d'une certaine économie. Vous savez, ça c'est un thème, alors que vous le trouvez déjà dans Platon, vous le trouvez dans Aristote, n'est-ce pas? Aristote vous le dit très clairement, c'est il faut survivre, et il y a un ensemble d'activités qui sont parfaitement légitimes, eu égard à cette finalité parfaitement légitime. Enfin, mais ce n'est plus du tout de ça qu'il s'agit maintenant. Je serais tenté de vous dire, regardez, il y a un autre symptôme, un autre signe de cette fracture que l'on s'efforce de masquer, n'est-ce pas? C'est tout simplement le problème de la distinction du nécessaire et du superflu. Qui est un thème, n'est-ce pas, parfaitement classique, qui est une. Il ne faut surtout pas évoquer la possibilité, n'est-ce pas, de désir, la distinction, c'est l'apparition possible de désirs superflus, n'est-ce pas, ou de besoins superflus. D'ailleurs, ça, c'est même vital, je pense, pour le monde moderne, parce qu'effectivement, comme il vit à 90%, c'est ça l'origine de la crise. C'est que la crise est fondée sur le fait que la production économique moderne est essentiellement une production de biens superflus. Si vous le dites, tout s'écroule. Les gens s'en aperçoivent déjà suffisamment eux-mêmes. Pas à la moindre petite difficulté, le moindre petit grain de sable, la machine se bloque parce que comment on a fait du superflu? On arrête. Et à ce moment-là, ça fait boule de neige, ça va très vite. Mais en réalité, nous aurions des remèdes économiques, si vous voulez, à proposer. Précisément comme disent nos collègues économistes, une réallocation des ressources humaines, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de principes simples qui me paraîtraient ne pouvoir porter que des fruits.
Il y a un auteur qui dit cela, et ça va dans votre sens, bien sûr, c'est Voltaire dans Le Mondain, qui dit « Le superflu, chose très nécessaire ».
Ah oui, c'est ça. Nous sommes déjà en plein air moderne. Plein 18e.
Il faut la rappeler opportunément. C'est contre Épicure, c'est contre Platon.
Alors, quel
contre Rousseau.
Oui, et contre Rousseau. Monsieur Hébé.
C'est un cours qu'on a fait à un monsieur qui venait demander sa carte de Vermeil ayant plus de 65 ans. Donc, il n'y a plus l'égalité de la nature de l'âge. Il a fallu qu'il produise 3 feuilles d'impôt de 3 années différentes pour prouver qu'il ne payait pas plus que 15 000 francs par an, faute de quoi il n'y a pas droit. Voilà l'égalité, il est là. Le concret de la générosité économique.
Merci madame. Monsieur Hébert. À ce moment-là,
Il y en a toutefois, au contraire, c'est un sujet tabou qu'il ne faudrait surtout pas. Donc il y a une orientation de la recherche et qui se fait avec le secours de l'argent. Et ça, c'est un fait réel. Hein. C'est, donc tous les laboratoires, après, travaillent dans ces directions-là. Bon, le côté, il y a toujours un peu le côté positif, c'est que définitivement, dans les grandes catastrophes, on cherche à susciter des recherches dans une direction. Ça, c'est un élément qui peut être bon. Les guerres ne sont pas forcément bonnes, mais elles font faire des bons considérables à des programmes et pour les désosser facilement dans les industries.
C'est un... Ah, tout à fait, c'est un exemple tout à fait admirable d'inféodation inconsciente, d'ailleurs à l'origine, très certainement, de la volonté techniciste, enfin, à l'économisme, enfin, tel qu'on vient d'en parler, puisque les intentions de maximisation de la productivité étaient initiales et qu'on a assisté à une dérive, mais prévisible, enfin, c'est inéluctable à partir du moment où on avait pris cette orientation. C'est certain, c'est un bel exemple, en effet, d'inféodation d'une technique qu'on présente trop souvent comme pure, n'est-ce pas, comme détachée de toute influence politique, à des finalités économiques qui sont celles générales de la démocratie. En l'occurrence, on voit très bien, n'est-ce pas, l'enchaînement, ça vous le... Oh, tout à fait, ça me paraît être...
Oui, c'est ce qui semble. Vous posez cette question pour donner des exemples concrets.
Voilà.
Ouais. Et alors, bon, si vous prenez des exemples concrets, vous pouvez prendre les appels d'offres lancés dans des directions de
Monsieur Paulin.
Alors, je voulais vous signaler, monsieur, que quand il reçoit parler de science, il faudrait pas prendre le mot au sens trop restrictif d'ailleurs, parce que les appels d'offres et les indications directives de la DGRST, nous les recevons aussi dans les universités littéraires. Et il y a une volonté précisément d'aligner même la recherche philosophique sur la recherche scientifique. Bah, il y a exactement le même phénomène surtout, et ce qui comporte un infléchissement de la recherche philosophique, c'est-à-dire qu'on exclut certains types de recherche, n'est-ce pas, exactement comme vous, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai, mais c'est-à-dire qu'il y a une... C'est la science, parce que ce qu'on dit par les sciences tout à l'heure, il y a un peu plus au sens très général, n'est-ce pas ? Il y a une espèce de soumission de l'activité intellectuelle de recherche, n'est-ce pas, quelle qu'elle soit, aux nécessités et de l'opinion et de l'économie.
Mais disons que pour la partie philosophique, c'est un peu plus difficile à appréhender,
oui.
Alors que la partie scientifique qui est matérielle.
Bien sûr,
si vous voulez, emporte plus une décision pour les gens pour dire, bah oui, c'est évident.
Oui.
Alors que philosophie, bon, c'est un peu plus diffus, ça apparaît moins.
Ça peut être plus précis, vous savez. Il y a la philosophie, mais il y a l'histoire, il y a des choses qu'on ne peut pas réviser en histoire, si vous voyez ce que je veux dire.